Vous écoutez la partie 2 du podcast de la table ronde « Santé des femmes, levons les tabous ». Vous retrouverez ici les échanges entre les intervenants ainsi que leurs réponses aux questions du public.
Je vous propose peut-être qu'on passe tout de suite aux questions vu l'heure qui avance. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester auprès d'Alice et Christine, ou peut-être qu'il y a déjà des questions sur l'ordinateur, donc on peut commencer par elles.
Oui, alors merci beaucoup pour les nombreuses questions. Et une première question concernant les IVG, bien que nous soyons en France et que l'IVG soit pratiquée, l'accompagnement est tout de même très léger, notamment lorsque l'on demande aux femmes de les pratiquer chez elles, de même pour l'accompagnement psychologique. Comment cela s'explique-t-il ? Un manque de moyens, un manque de formation, une résistance des anti-IVG intra-hôpitaux. J'ai une grosse pensée pour toutes ces femmes et filles du monde qui n'y ont évidemment pas droit.
Nathalie Trignol-Viguier.
Alors, merci d'avoir posé cette question parce que je pense qu'effectivement, c'est un sujet très intéressant qui est de est-ce que l'IVG médicamenteuse à domicile, c'est abandonner les femmes chez elles ou est-ce que c'est leur permettre d'avorter là où elles ont envie d'avorter ? Toujours dans mon congrès samedi dernier, on a énormément parlé du self-abortion, donc l'auto-avortement, à savoir la possibilité aujourd'hui que certaines femmes revendiquent de pouvoir être actrices de leur histoire du début jusqu'à la fin et de pouvoir choisir où, quand et comment et avec qui elles vont pouvoir faire cette interruption de grossesse, voire sans avoir à se justifier auprès d'un soignant de pourquoi elles le font, de quand elles vont le faire, à quel terme elles sont. Les études ont montré que c'est très facile de ne pas se tromper de terme et de rapidement savoir s'il y a un danger ou pas à faire un avortement à domicile. Donc oui, c'est possible. Et toutes les femmes qui souhaitent le faire devraient pouvoir y accéder s'il n'y a pas de danger pour elles. Et c'est un peu à ça qu'on sert, à mon avis. Et celles qui ne le souhaitent pas, il faut qu'elles aient la possibilité de le faire ailleurs et d'être effectivement accompagnées dans une structure comme la nôtre, par exemple. Et j'espère que dans notre service, toutes les femmes qui ont voulu rester à l'hôpital pour faire leur interruption de grossesse ont pu le faire. Malheureusement, l'offre de soins aujourd'hui fait qu'il y a de plus en plus d'endroits où on peut avorter, et tant mieux. Et donc, on peut avorter dans un cabinet en libéral, et tant mieux. Et on sait qu'une femme, elle va avorter la plupart du temps par la méthode qui va lui être proposée en premier. Et comme il y a de plus en plus d'endroits où on peut avorter à domicile en passant par une structure autre que l'hôpital, eh bien, généralement, si on va voir un médecin ou une sage-femme qui fait des IVG à domicile, bon, on va faire une IVG à domicile. Parce qu'on a déjà mis du temps pour trouver un endroit, on l'a trouvé, on nous propose ça, on va faire ça. Sinon, on repart à zéro, on recommence toute l'histoire. Donc j'espère que les femmes qui pensent que c'est de la solitude d'avorter tout seul à la maison auraient pu ou ont pu avoir un autre accès que l'IVG à domicile. Mais penser que l'IVG à domicile, c'est abandonner les femmes et ne pas leur donner un espace de parole, c'est peut-être penser à leur place. Et les soignants, on a souvent tendance à penser à la place des femmes. Et donc que celles qui ont envie d'être autonomes, sans accompagnement, puissent en bénéficier, et que celles qui ont envie d'un accompagnement puissent en bénéficier. Et c'est pour ça que tout centre d'interruption volontaire de grossesse se doit d'avoir en son sein ou en partenariat des conseillères conjugales et familiales qui sont des personnes formées à l'écoute et à l'accompagnement des femmes et des hommes dans un parcours de demande d'interruption de grossesse. Parce que les hommes aussi peuvent être dans une période de vulnérabilité à ce moment-là et peuvent aussi avoir besoin de cette parole.
Moi, je vais faire une intervention puis une petite réponse de la faculté à vos propositions. Alors, je ne suis pas ministre ni de l'enseignement supérieur et de la recherche, ni de la santé, je ne suis que doyen, mais c'est pour vous dire quand même que je rejoins beaucoup une partie de vos réflexions, je voulais vous remercier tous pour la qualité de vos interventions. Sur la formation des professionnels de santé en général et puis des médecins en particulier, on est quand même actuellement en train de sortir du paradigme qui a été mis en place il y a une centaine d'années, qui a été édicté d'ailleurs aux États-Unis, qui est, suite au rapport Flexner, qui avait une vision très bioclinique de la médecine. Il fallait que les médecins, alors qu'historiquement les médecins étaient plutôt issus des humanités, même si c'était très masculin, c'était quand même beaucoup issu des humanités. Depuis plus d'une centaine d'années, les médecins, c'est les scientifiques. Il fallait être bon en maths pour faire médecine. Ce concept aujourd'hui, il est remis en cause, et notamment il était remis en cause dans le monde de la francophonie, avec le concept de responsabilité sociale des facultés de médecine, et je dirais même, et je vous rejoins sur ce terme, de responsabilité communautaire, pas au sens du communautarisme, et des communautés telles que c'est utilisé en Amérique du Nord, et on a ça en commun d'avoir vécu dans un pays qui fait beaucoup baser la médecine là-dessus. La formation des professionnels de santé, elle doit avant tout être destinée aux patients qui vont soigner. Et en France, finalement, c'est surtout la médecine générale qui s'est emparée de ce sujet et de centrer la formation et le soin sur le patient. Et vous avez tout à l'heure dit que ce serait important que les patients soient impliqués dans la formation professionnelle de santé. Alors, ça se fait au Canada. Ça devient obligatoire en France. Alors, on n'en est pas encore à l'obligation réglementaire. On en est au texte qui nous demande de le mettre en place. Et nous, on va le mettre en place à la rentrée 2025. Je parle bien de la formation médicale initiale. Pour les internes, ça se fait déjà. Alors, ceci dit, ça nous parle du patient, ça nous parle que de ça, ça ne nous parle pas particulièrement des femmes. Et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a un plafond de verre qu'on voit sur la santé des femmes. Alors, on ne peut pas... Je regardais sur Internet, il y a des DU de la santé de la femme, mais ça ne parle que des problèmes, finalement, de gynécologie, essentiellement. C'est les gynécologies et également les maltraitances. Il n'y a pas dans mon cours de cardiologie un cours de la cardiologie de la femme. Ce serait même un petit peu à contre-courant de faire ça. Il n'y a pas un cours de neurologie de la femme, il n'y a pas un cours de néphrologie de la femme, il n'y a pas un cours de chirurgie orthopédique de la femme. La seule façon, à mon avis, de faire avancer cette appréciation, ça serait de féminiser la profession de santé. Mais ça, c'est déjà fait. Moi, on me dit, vous avez vu, aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes dans les générations d'étudiants en médecine. Je regrette, j'ai fait mes études en médecine dans les années 90, il y avait 70% de filles dans ma promo. Par contre, j'ai l'âge moyen des professeurs de médecine, il y a 80% d'hommes. Donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait plus de femmes professeurs de médecine, plus de femmes enseignantes de médecine. On y travaille. On est passé de 5 à 20 femmes professeurs de médecine à Tours sur une centaine de professeurs en 10 ans. Je me retourne vers ma directrice générale qui est là. Parce qu'au CHU de Tours, il y a une politique volontariste pour promouvoir les femmes au poste de chef de service. On a là récemment, on auditionne les nouveaux chefs de service. On a la chance de voir un certain nombre de femmes prendre des responsabilités, dont la mienne, qui est également présente dans la salle, donc j'en profite. Mais effectivement, je pense que c'est ce qui fera le plus avancer cette perception, même si, comme vous l'avez dit, que le médecin soit un homme ou une femme, les femmes sont moins bien soignées que les hommes en général. On parlait tout à l'heure de la douleur de la jambe cassée, c'est la même chose pour l'infarctus du myocarde. Mais je pense que c'est par une politique, effectivement, on doit faire mieux. On a déjà fait des choses, mais on doit faire mieux. Et je prends pour moi un certain nombre de conseils. Je vous remercie.
Merci. Il y a peut-être d'autres questions ?
Alors, une question qui est posée au sujet de la contraception pour les hommes. La santé sexuelle des femmes a un rapport direct avec la contraception et celle des hommes. À Tours, l'hôpital propose-t-il la possibilité de vasectomie ? Et une campagne explicative est-elle prévue ? Car nous sommes pas mal à la bourre sur ce sujet-là, alors qu'il est prouvé qu'impliqué, les compagnons permettent aux femmes de les libérer d'une charge mentale importante. Merci.
Je suppose que c'est pour moi aussi. En tout cas, je peux répondre. Au centre d'orthogénie, il y a des consultations de contraception. Et dans les consultations de contraception, il y a des consultations de contraception pour les hommes, avec les différentes contraceptions masculines qui s'offrent à eux aujourd'hui, à savoir la contraception thermique, par remontée des testicules, pas jusqu'aux ovaires, mais pas loin, afin de les mettre au chaud et pas au froid, et qu'à 37 degrés, ça annihile la spermatogénèse. Et la contraception masculine par méthode hormonale existe aussi avec toutes ses limites, et je crois que c'est aussi parce qu'on a peut-être plus eu de mal à faire des études sur la contraception masculine que sur la contraception féminine, et dès qu'il y a eu des effets secondaires, les études se sont arrêtées. Et la vasectomie fait évidemment partie des contraceptions possibles. C'est une contraception définitive, au même titre que la ligature des trompes. C'est une contraception qui est autorisée à partir de l'âge de 18 ans, avec un délai de réflexion de 4 mois, tel que la loi du 4 juillet 2001 l'autorise. Il n'y a pas d'autres critères à respecter. Il faut juste être une personne qui a plus de 18 ans et qui demande. Qu'on ait déjà des enfants, qu'on n'en ait pas, qu'on ait déjà eu des échecs de contraception, qu'on n'en ait pas eu, qu'on soit marié, pas marié, hétéro, peu importe, puisqu'on peut avoir différentes orientations sexuelles à différents moments de sa vie et en avoir besoin à différents moments de sa vie. Et donc, oui, c'est possible. Il y a même un de nos confrères au centre d'orthogénie qui, cette année, s'est inscrit au DU d'andrologie et qui a une très grande envie, avec une autre de nos consoeurs, de développer la vasectomie dans le service, en partenariat avec nos urologues pour qu'ils nous apprennent à le faire. Et en France, il y a un certain nombre de médecins généralistes qui font des vasectomies. On a un diplôme de docteur, il suffit de nous apprendre et on saura faire, un peu comme les personnes du MLAC à qui on a appris à faire des avortements, qui étaient médecins ou qui n'étaient pas médecins, ont su le faire. Et donc, j'espère que dans un avenir très proche, on fera des vasectomies au centre d'orthogénie du CHU de Tours, en plus de l'urologie et des autres lieux où c'est possible à Tours.
Martin Vinclair.
Au milieu des années 90, j'ai été invité au congrès de l'ANSIC et j'ai entendu des généralistes de Nantes particulier un qui s'appelle le docteur Bourmeau, qui pratiquait des vasectomies en parallèle avec le CIVG, il bossait au CIVG aussi, alors que c'était illégal. Quand la vasectomie, la stérilisation volontaire sont devenues légales en 2001, on pouvait penser que les hommes et les femmes pouvaient décider de se faire faire une vasectomie ou une ligature de trompe. Il y a encore des résistances énormes de la part de beaucoup de professionnels de santé, en particulier d'un certain nombre de gynécologues obstétriciens, pour pratiquer des ligatures de trompe à la demande des femmes. C'est du paternalisme. Quel que soit l'âge de la femme, comme l'a dit Nathalie, ça peut être une femme de 18 ans. J'ai vu, dans les années 90, des femmes de 18 ans ou 20 ans dire « Je ne veux pas avoir d'enfant ». Et on leur répondait toujours, alors moi je ne pouvais pas les opérer, si j'avais pu le faire, je l'aurais fait, mais on leur répondait toujours « Vous allez changer d'avis ». C'est du paternalisme. Nous avons encore l'un des obstacles, ce n'est pas la bonne volonté d'un certain nombre de gens qui voudraient le faire, c'est la mauvaise volonté de gens qui sont encore en place et qui font blocage. Sur le site internet que je faisais, j'ai lancé une liste des médecins qui faisaient des vasectomies et des ligatures de trompe sans poser de questions, sans faire la morale, sans vous faire tourner en bourrique. Après, la liste a été reprise par des groupes de personnes qui voulaient défendre ça et qui l'ont agrandi, etc. Mais on est encore dans une situation, effectivement, de grande résistance, alors que ce sont des démarches parfaitement légales et que, encore une fois, une femme ou un homme qui demande ça devrait l'obtenir. Je voudrais ajouter ceci, qui n'est pas mainstream, mais qui, quand même, me semble mériter d'être dit. Je suis absolument pour la contraception masculine. Toutes les formes de contraception masculine qu'on pourrait inventer sont bonnes à inventer et à mettre au point. Il n'y a pas de discussion. J'aimerais bien qu'on améliore et qu'on élargisse les méthodes de contraception féminine. Parce que, encore une fois, quand il y a une grossesse possible, c'est toujours pour la femme que ça va être le problème. Ça ne sera jamais pour son compagnon. Je vous donne un exemple personnel. Un jour, ma compagne, qui porte un stérilet, je lui dis, mais ne pense, et elle ne veut pas d'enfants, et je n'en veux, moi j'en ai, et je ne vais évidemment pas lui imposer d'avoir des enfants quand elle n'en veut pas, moi j'en ai assez d'ailleurs, de toute façon. Et je lui dis, mais est-ce que tu crois pas que je devrais me faire faire une vasectomie? Et elle m'a répondu, elle est canadienne, hein. Elle me répond, bah écoute, c'est ton choix, si tu veux, mais ça ne changera rien pour moi. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, bah parce que, un jour tu seras peut-être plus là, et si tu t'es fait faire ta vasectomie, moi il faudra quand même que j'ai mon stérilet, parce que si j'ai des relations avec un autre homme, ta vasectomie ne sera plus très utile. Deux, comme beaucoup de femmes, je peux subir des violences et être agressée, donc il faut quand même que j'ai un stérilet. C'est-à-dire qu'elle m'a rappelé le fait que, encore une fois, dans le choix de reproduction, le choix des hommes est très important. Il est très important qu'ils soient eux aussi dotés de méthodes pour ne pas faire courir le risque d'une grossesse à une femme. Mais ce sera toujours cette femme qui va, ou cette personne avec un utérus qui va courir les, c'est pas les hommes. Donc c'est très important aussi qu'on se donne tous les moyens possibles pour améliorer l'accès des femmes à une contraception, les méthodes de contraception elles-mêmes, leur surveillance et leur sécurité, et voire mettre au point des méthodes nouvelles.
Nathalie Trignol-Viguier.
Je veux bien rajouter quelque chose parce que je suis bavarde aussi. Je suis très d'accord, mais je suis convaincue que la contraception, c'est avant tout une histoire d'homme. Parce que nous les femmes, en tout cas nous les personnes à utérus, certes nous porterons toujours la grossesse tant que les grossesses se feront dans les utérus, mais nous pourrons, en tout cas jusqu'à 14 semaines de grossesse en France, nous pourrons en choisir le devenir. Alors que tout spermatozoïde qui part dans la nature, et a fortiori en direction d'une matrice, s'expose à un devenir qui n'appartiendra plus à l'homme, mais à la femme. Et donc si les hommes se posaient plus souvent la question de la contraception, en tout cas du devenir de leur spermatozoïde, ils n'auraient plus à dire à la femme, j'en veux pas, t'as intérêt à te faire avorter, ou pourquoi tu le gardes pas, parce que nous, on aura toujours le dernier mot. Et nous, on saura toujours qu'on a eu une grossesse dans notre utérus, si en tout cas elle nous a fait le signal qu'elle était là, alors que plein d'hommes ne sauront jamais qu'ils ont été à l'origine d'une grossesse. Et dans nos questions médicales, on pose beaucoup de questions intrusives, on s'est mis à poser la question des violences de façon systématique, et est-ce qu'on va se mettre à poser la question systématiquement à toutes les hommes ou à toutes les personnes à pénis? Savez-vous combien de grossesses ont été à votre initiative? Aucun ne pourra répondre.
Merci. Une autre question dans la salle? Bonjour, merci. Alors, déjà peut-être par rapport à tout à l'heure à la professionnalisation, féminisation des métiers. Déjà, c'est agréable de voir le panneau avec des noms au féminin. On voit professeur, chef, etc. Et effectivement, si on ne voit pas le manque de femmes dans certains métiers ou spécialisations, on peut poser problème. C'était pas ma question de départ, mais c'est suite à cela. Je pensais, j'étais pompier, je me rappelais d'une fois où une femme qui avait eu un accident est dans ce qu'on appelle la cellule, c'est-à-dire dans l'ambulance. On est plusieurs personnes et à un moment donné, les autres pompiers sortent et je suis la seule femme avec elle. Et à ce moment-là, alors qu'elle nous avait répondu juste avant, on avait regardé les jambes, tout ça, vous avez mal ailleurs. Non. Dès que je me suis retrouvée seule avec elle, elle a levé le t-shirt en me demandant, je n'ai rien sur la poitrine, vous voyez. Donc elle mettait sa santé en danger, par pudeur, j'allais dire, ou je ne sais pas. Donc le fait qu'il y ait une femme dans un métier où, à l'époque, il y a plus de 30 ans de cela, il n'y avait pas trop de femmes, déjà le fait d'être de femme à femme, ça peut aider au dialogue. Maintenant, ça rejoint aussi ce que vous disiez, la formation, qui fait que même certaines femmes médecins sous-estiment la douleur des femmes. Donc on n'est pas à l'abri de stéréotypes ou de conditionnements. Je me posais la question par rapport à quelque chose qui occupe beaucoup, beaucoup l'actualité actuellement, les procès, le procès de Pellicot, les viols de Mazan. Plusieurs choses m'interpellent, je ne suis pas médecin. Je me dis, elle avait beaucoup, des problèmes de sommeil importants quand même. Je veux dire, pour l'instant, on est peut-être au début de l'enquête. Elle est allée voir son médecin, un gynécologue. Est-ce qu'il aurait pu être possible, peut-être avec une autre approche des violences, ou je ne sais pas, même si ça reste inimaginable, ce type de scénario. Est-ce que là, on peut apporter, selon vous, quelque chose sur notre réflexion à la manière d'écouter les femmes? Est-ce qu'on aurait pu, pendant ces 10 années, elle a eu des problèmes gynécologiques, puisque, comme vous le disiez, on rentre dans l'intimité, non pas de la maison, mais on pose des questions sur la vie sexuelle, etc. Est-ce qu'on aurait pu?
Pauline Saint-Martin.
Alors, c'est toujours un peu difficile. Moi, je ne connais pas du tout ce dossier. J'en connais ce que j'ai lu dans la presse, donc c'est-à-dire quasiment rien. Un dossier, c'est des milliers de pages, surtout là, je pense qu'il y en a beaucoup. Ce que je pense, c'est que quand il y a comme ça une errance diagnostique pendant très longtemps, pendant des années, et qu'on arrive à la fin à des infractions très graves, moi, je pense que oui, à un moment donné, on aurait pu. Alors, dans l'histoire qui est rapportée, je ne sais pas si l'alerte aurait dû venir des neurologues ou des gynécos, mais je pense en tout cas que, bien sûr, ce qui s'est passé était, à mon avis, inimaginable. Mais même au niveau du premier niveau de cette affaire, c'est-à-dire la soumission chimique intrafamiliale, on n'y pense pas du tout. Il n'y a aucun médecin, j'en ai eu moi des dossiers, je suis désolée de raisonner en termes de dossiers plutôt qu'en termes de personnes. J'en ai eu quelques-uns qui ont abouti aux assises, donc c'est un phénomène qui est connu mais qui est rare, mais on y pense, les médecins n'y pensent pas du tout. Devant des troubles cognitifs atypiques, c'est-à-dire des troubles de la mémoire, personne n'y pense. Donc là, on parle de dépistage systématique des violences sur un niveau très basique. Avez-vous déjà subi des violences au cours de votre vie? Mais pour rentrer dans le détail, les médecins ne sont pas prêts, à mon avis, à penser à des types de violences qui non seulement leur semblent inimaginables, mais à mon avis, il y a peut-être aussi un problème d'identification ou de... Enfin, je ne sais pas comment dire, il faudrait se pencher sur le problème. Mais oui, je pense, et c'est ce que je dis aussi en cours d'assises quand on me demande, mais cet enfant qui a été maltraité, qui a vu 14 fois des médecins différents, est-ce qu'on aurait pu y penser? Maintenant, je dis oui. Parce que évidemment, c'est facile rétrospectivement de dire ça, mais je pense quand même qu'il faut penser aujourd'hui à ce type d'hypothèse diagnostique.
Et on ne trouve que ce qu'on cherche. Et donc, si on ne pense pas que quelque chose peut exister, on ne va pas le chercher et donc on ne va pas le trouver. D'où la systématisation. Ce n'est pas parce qu'on connaît très bien cette famille, ce n'est pas parce que le conjoint est super sympa qu'il est tout le temps là, ou la femme, parce qu'il y a aussi des violences dans l'autre sens. Il faut toujours trouver un moment pour interroger une personne seule et lui reposer les questions dans le bon ordre. Et moi, à chaque fois qu'à la question « Est-ce que vous avez déjà été confronté à des violences d'une façon ou d'une autre ?», on me répond « Oui, ben je sais que c'est vrai. » Et quand on me répond non, je me dis que peut-être qu'une autre fois, il y aura un oui, parce qu'il faut quelquefois plusieurs non avant de pouvoir dire oui.
Comme c'est à Penuto.
On revient sur la parole des femmes, parce qu'en effet, c'est aussi, maintes fois, on en parlait tout à l'heure, la manière de poser la question. Vous le disiez, madame, quand la femme est restée seule avec vous, elle vous a montré quelque chose. Parfois, on est un peu, je parle en tant que non-médecin et patient, parfois on est un peu intimidé. Et donc, même si on pourrait dire oui, je ne connais pas mon médecin. Mon médecin est un étranger pour moi. Qui est-ce que le médecin? Parce qu'en effet, est-ce qu'on se passe parfois on se place de l'autre côté de la chair? Mais en effet, c'est un étranger. Qui est-ce ce médecin qui me demande, justement, vous parliez de la vie intime, de tous ces problèmes. Donc, parfois, il faut du temps. Parfois, c'est la manière aussi dans laquelle je parle et j'écoute les noms. Quel type de nom m'a dit la patiente? Là, on parle des violences, mais sur tout type de maladies. Donc, c'est vraiment une relation, encore on revient sur ces mots, qu'on construit avec fatigue aussi de la part du patient. Parce que cette relation de confiance, parfois, c'est un peu difficile quand on ne connaît pas la personne qui nous est en face.
Quelquefois, c'est à quelqu'un qu'on ne connaît pas qu'on livre oui. l'information. Et on ne peut pas le dire au médecin traitant qu'on a vu pendant 25 ans. Et puis, quand on connaît la personne depuis 25 ans, on oublie qu'on n'a jamais posé la question. Donc, en fait, je ne sais pas si c'est ça. Par contre, c'est le temps dans la consultation qui est important. On sait que les infos les plus importantes, elles arrivent au bout d'un certain temps, parce qu'il faut ce temps de la confiance, de la relation. Si on est capable d'ouvrir la porte et de dire « bonjour, je suis victime de violence », on peut le dire à n'importe qui, je pense. Si on a besoin de temps, il faut que la personne avec qui on est nous laisse le temps d'eux. Et c'est des consultations qui durent longtemps et du coup qui ne rapportent pas. Et je pense que la question, elle est dans la temporalité.
Il y a aussi, et ça on le voit dans... Enfin, je l'ai vu dans d'autres pays. Il y a aussi le fait que quand on parle de santé communautaire, parfois c'est aussi la santé communautaire délivrée par une communauté de professionnels de santé. Et quand les personnes qui ont besoin de soins ont la possibilité de consulter dans des maisons de santé dans lesquelles ils peuvent avoir un professionnel attitré, habituel, etc., ça permet aussi justement de pallier à ce problème, c'est que on peut s'adresser à une autre personne dont on pense qu'à ce moment-là, pour ce problème-là, elle sera plus à même d'écouter ce qu'on a à dire que la personne à qui on a affaire d'abord. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la santé, c'est quelque chose qui devrait être délivré collectivement. C'est toujours délétère de travailler seul quand on soigne, toujours, parce qu'on perd les perspectives. Moi, j'ai beaucoup souffert de travailler tout seul et chaque fois que je pouvais échanger avec mes confrères, je voyais les choses de façon beaucoup plus claire et mes consoeurs de façon beaucoup plus claire que quand j'étais tout seul. Et je pense que c'est une des manières de pallier à ce type de problème.
On poursuit avec les questions. Alors, il y avait déjà un message adressé à la docteure Trignol-Viguier. Merci de parler des personnes à utérus. Donc... on vous transmet ce remerciement. La question suivante s'est adressée à Madame Concetta Penuto. Quelle pratique contraceptive existait à la Renaissance?
Alors, à la Renaissance, mais aussi depuis l'Antiquité, on a beaucoup de manières contraceptives. Alors, on parle naturellement d'un ensemble d'outils qui se mélangent à des remèdes pharmaceutiques qu'il faut imaginer, une médecine assez complexe. On peut intervenir avec des pessaires, on a parlé comme ça, donc des membranes qui empêchent la sémence masculine d'arriver jusqu'à la bouche de l'utérus, parce que l'école, on l'appelait la bouche de l'utérus, parce que la bouche s'ouvrait pour faire entrer ses spermes. Donc ces pessaires qui étaient contraceptifs étaient une sorte d'hymen, on l'appelait aussi hymen, qui devait protéger donc, de la grossesse. Et ces pessaires étaient insérés parfois avec des substances, des plantes, on est toujours sur une pharmacopée assez végétale. On a des systèmes des pharmacopées qui servent aussi à changer un peu cette température des femmes qui provoque, parce qu'on a parlé d'une menstruation mécanique, donc on a en effet tout un système de physiologie qui fait venir ces règles. On ne connaît pas l'ovulation, on ne connaît rien de tout ça. On connaît tout simplement ces troubles voilà, qui sont liés à la menstruation. Et donc on a une série de remèdes pharmacologiques qui permettent de changer un peu la physiologie féminine. Donc, et ça, c'est les médecins qui sont maîtres. Mais on a toute une série, on les appelait les secrets des femmes, toute une série des moyens et des remèdes qui circulaient entre les femmes, qui sont connus des historiens, des littéraires, et qui permettaient donc la contraception. La contraception était pratiquée, mais était pratiquée aussi l'avortement, qui était, nonobstant les sermons d'Hippocrate, donc on a beaucoup de recettes, comme je disais tout à l'heure, et parfois ce sont les mêmes types de plantes les mêmes types de samples qui sont utilisés dans un cas comme dans l'autre.
Merci, en deux minutes, c'était un bel exploit. Une autre question, oui, au fond de la salle.
Oui, je voudrais revenir sur l'avortement, en fait. Autant je suis d'accord pour que les femmes qui en ont besoin pratiquent l'avortement sans problème, mais je me pose la question et je m'interroge sur l'allongement à 3 mois et demi, je crois 14 semaines, ça fait à peu près 3 mois et demi de grossesse. Et je me demande, j'ai deux questions, est-ce que cet allongement est dangereux pour la femme? Et la deuxième question, est-ce qu'il est douloureux pour le fœtus, en fait? Voilà.
Nathalie Trignol-Viguier.
Alors, je pense que la première question, j'y ai répondu tout à l'heure en disant que plus la grossesse avance, plus les dangers existent, et donc il est nécessairement moins dangereux que d'aller jusqu'au terme de la grossesse. Si la femme interrompt sa grossesse autour de 14 semaines de grossesse ou 16 semaines d'aménorrhée, c'est souvent parce que soit elle n'y a pas pensé avant, parce qu'elle avait un autre projet, soit parce qu'elle n'a pas découvert sa grossesse avant, soit parce qu'elle n'a pas trouvé le lieu pour y accéder. Et je ne connais pas de femme, à ce jour, qui ait décidé d'avorter à 14 semaines parce que ça faisait 6 semaines qu'elle le savait et qu'elle s'était dit « bon, j'ai le temps et je sais que c'est 14, donc j'irai la veille des 14 ». Donc ça n'existe pas. Donc finalement, la question de la dangerosité, elle ne se pose pas, puisque si c'est le moment pour elle et que c'est le meilleur choix pour elle, c'est ça qu'il faut faire, puisque c'est son choix et que de toute façon, c'est moins dangereux que le reste. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ensuite, la question de la douleur du fœtus, je pense que c'était ça la question. Aujourd'hui, toutes les études montrent qu'il n'y a pas de connexion nerveuse et de douleur avant au moins 20 semaines d'aménorrhée. Donc il y a énormément de littérature médicale autour de ça. Et même à partir de 20 semaines, les études sont très controversées sur cette notion de douleur du fœtus. Donc avant 20 semaines, la question ne va pas se poser de donner une sédation au fœtus avant l'interruption de grossesse. Mais dans l'interruption de grossesse pour motif médical, donc il y a l'IVG jusqu'à 14 semaines de grossesse et l'IMG jusqu'au terme, donc pas de limite de terme, dans la technique de l'interruption de grossesse, à partir d'une vingtaine de semaines, il est systématiquement pratiqué un geste qu'on appelle un féticide, qui est un geste qui a pour objectif, justement, au cas où il y aurait un risque de douleur, que le fœtus ne supporte pas cette douleur dans le cadre de l'interruption de grossesse.
Je voudrais ajouter que Martin aux Pays-Bas, en Angleterre, le délai ultime de pratique d'une IVG, c'est 26 semaines. Au Canada, comme ça a été dit tout à l'heure, il n'y a pas de loi. C'est-à-dire que théoriquement, une femme peut interrompre cette douleur à n'importe quel moment de sa gestation. En fait, dans les faits, il est exceptionnel, sauf interruption médicale de grossesse parce qu'il y a des malformations multiples qui ont été découvertes tard, ce qui peut arriver. Il est exceptionnel que les femmes demandent une interruption de grossesse après 26 semaines. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. J'ai pas vu les statistiques de Santé Canada récemment, mais que je sache, en tout cas, peut-être pas les dernières années, je peux pas parler des années pendant la Covid et tout ça, mais avant 2020, il n'y avait pas de décès dû à une interruption de grossesse au Canada. Il n'y en avait pas. Alors que les délais sont, encore une fois, extrêmement... Enfin, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de délai. C'est un soin. L'IVG n'est pas...
C'est tellement simple.
Voilà, c'est un soin.
Merci. Peut-être on va prendre une dernière question avant de clôturer notre séance.
Alors, on a une question sur le tabou de la ménopause. Le tabou de la ménopause n'a pas été abordé alors que les femmes sont dépréciées dans leurs compétences professionnelles et personnelles à cette étape de leur vie. Qu'en pensez-vous ?
Alors c'est intéressant parce qu'hier il y avait, j'ai écouté un topo sur la ménopause à une journée de formation. Alors déjà, il y a un constat aujourd'hui, c'est que quand on est une femme, on va probablement passer plus de temps de notre vie à être ménopausée qu'à ne pas l'être si on part du principe que, enfin si on commence à une douzaine d'années pour la moyenne des premières règles, compte tenant de l'allongement de l'espérance de vie, on va passer plus de temps ménopausée que pas ménopausée. Donc vous avez entièrement raison, il serait temps qu'on s'occupe sérieusement de la ménopause. Comme c'était loin d'être mon champ de compétences, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, et donc il serait effectivement fondamental de penser qu'aujourd'hui, on dit souvent que les hommes, quand ils commencent autour de la cinquantaine, c'est des hommes mûrs, pleins d'expérience et ainsi de suite. Bah, les femmes aussi, parce que du coup, on a expérimenté plein de choses et on commence à expérimenter une nouveauté qui est la ménopause, avec tout son corollaire de bénéfices et d'inconvénients. Et donc, choisissons les bénéfices et essayons d'accompagner les inconvénients, et notamment d'accompagner les symptômes de la ménopause, d'accompagner l'image de la femme qui vieillit. Parce que c'est pas parce qu'on a des rides, qu'on a changé de morphologie, qu'on n'a pas la même valeur que ce qu'on avait avant, voire plus, puisqu'on a plein d'atouts supplémentaires. Donc non, il ne faut pas négliger la femme à partir du moment où elle est ménopausée.
Compte, c'est à Penuto.
Je voulais rebondir, je me permets juste un mot, parce qu'on a parlé du flux menstruel, et je trouve très pertinente la question sur la ménopause, justement, en sachant que vraiment c'est un tabou, encore pire que le flux menstruel dans l'histoire de la médecine. Figurez-vous que le mot ménopause apparaît en 1821, c'est-à-dire qu'avant, je vous lis, parce que test de médecine, l'âge critique, l'horloge qui s'arrête, la femme est hors âge. Et pour la femme, c'est la fin de l'âge amen. Textes médicaux. Donc vraiment, c'est en faculté de médecine, nous avons actuellement une étudiante de médecine qui fait ses recherches sur la ménopause. Voilà. Donc je pense que c'est quelque chose qui, aussi en sciences humaines, il faudra aborder. Et dans l'histoire, aller la chercher sur d'autres mots qui sont parfois en latin, parfois, bien sûr, sur des textes médicaux. Mais c'est un sujet vraiment à creuser au vu du... On parlait de stéréotypes, voilà, du tabou de la parole. Voilà,
Merci. Et cette question nous conduit d'ailleurs à penser que la question de la santé, elle ne regarde pas que le corps médical et que c'est vraiment un sujet qui concerne toute la société. Là, en l'occurrence, sur la question de la ménopause, ça peut aller très loin.
Merci d'avoir écouté le podcast de la table ronde « Santé des femmes, levons les tabous ». Nous souhaitons également remercier toutes les personnes ayant été impliquées dans l'aboutissement de cette table ronde. L'Université de Tours, le service Sciences avec et pour la société, la mission Égalité, la Bibliothèque municipale de Tours, la Ville de Tours. Merci également aux intervenants, Madame Concetta Penuto, la professeure Pauline Saint-Martin, la docteure Nathalie Trignol-Viguier et Martin Vinclair pour leur disponibilité.